Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble, 90.8.
Annick Caron. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette 12e et dernière émission de Microcité, votre rendez-vous d'actualité du vendredi après-midi. Il est 16h30 et nous sommes ensemble jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble. Le dernier rapport du GIEC a été publié ce lundi et il est encore une fois alarmant. Hausse des températures, inondations, pertes agricoles, quel changement le réchauffement climatique va-t-il avoir sur nos vies? Nous y reviendrons dans le dossier de cette émission. Quand le Covid affecte les patients sur la durée, on appelle cela le Covid long, un phénomène encore mal connu avec des symptômes qui varient selon les patients. Heureusement, il existe des solutions pour traiter ce mal. En fin de journal, Agathe Legrand nous amènera dans un centre de kiné respiratoire. Voilà, vous avez le programme, on est ensemble jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble 90.8. Microcité, c'est parti! Et avant tout, on fait un point sur l'info avec vous, Gwendoline Langlois, bonjour.
Bonjour Anouk. Cette nuit, l'armée russe a failli provoquer un accident nucléaire en prenant le contrôle d'une centrale ukrainienne. En une semaine, plus de 800 000 civils ont fui les combats. En Europe, la solidarité s'organise pour épauler et accueillir les réfugiés. Reportage en ce début de journal. Les hospitalisations et cas positifs au Covid sont en baisse en France depuis deux semaines. Hier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la levée progressive du port du masque à partir du 14 mars. Enfin, à Grenoble, les agents de Métro-Vélo n'en peuvent plus. Manque de moyens et management toxique, un employé de ce service de location de roues témoigne.
On a frôlé l'accident nucléaire.
Cette nuit, l'armée russe a tiré sur la centrale de Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Le feu, qui s'est rapidement déclaré sur le site, a finalement été maîtrisé en tout début de matinée, une fois que les soldats ont accepté de laisser passer les secours. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence cet après-midi pour étudier les conséquences de cette attaque.
Pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens, des appels aux dons sont lancés un peu partout en France.
Un élan de solidarité auquel Grenoble ne fait pas exception. Anouk Caron, vous vous êtes rendue au restaurant Le Spoko où une collecte d'objets de première nécessité était organisée par la gérante.
Dans le restaurant, un espace a été aménagé pour recueillir les denrées. Rachel, mère de famille, vient déposer deux sacs remplis à ras-bord.
Je me suis dit, t'as tellement de stock dans tes affaires, voilà, des dentifrices, des brosses à dents, des serviettes hygiéniques. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Des boîtes de conserve. J'ai mis des crèmes à moi que je m'étais achetées, qui sont neuves. Hein. Mais je me suis dit, je voudrais m'en racheter. Moi, je peux retourner au magasin, je suis en centre-ville, autant que ça serve à des gens qui ne pourront pas forcément se déplacer.
Un geste qui touche particulièrement Alexandra, la gérante du restaurant. Elle vit en France depuis 10 ans, mais a grandi en Pologne, dans la région frontalière avec l'Ukraine. Impensable pour elle de rester les bras croisés.
Je me suis dit, mais je vais aider aussi. Quand j'ai vu toute cette malheur de gens, les orphelinats bombardaient, les hôpitaux bombardaient, j'ai des larmes aux yeux. C'est horrible. Je me suis dit, que merde, mais peut-être mon manteau pourra réchauffer quelqu'un. Je suis désolée.
Malgré cette situation, Alexandra veut rester positive.
Je pense que le fait de créer des liens, de voir qu'on est toujours si généreux, Ça donne l'espoir en humanité.
Toutes ces denrées parcourent ensuite 2000 km. Ce sont des bénévoles qui conduisent un camion et les acheminent vers la frontière entre l'Ukraine et la Pologne.
Entre deux appels téléphoniques au président russe et ukrainien, Emmanuel Macron a annoncé hier soir sa candidature à l'élection présidentielle. Dans une lettre publiée ce matin dans la presse régionale, le désormais candidat a défendu son bilan et présenté une ébauche de son programme.
Et c'est d'ailleurs le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales. Pour pouvoir glisser son bulletin en avril prochain, rendez-vous en mairie avant ce soir.
Et les présidentielles, c'est un sujet qui visiblement ne passionne pas les Français. Un sondage BVA publié il y a deux semaines constate que l'intérêt des Français pour la politique a baissé de 4 points en 15 jours. Et un Français sur 3 se dit désintéressé par les élections à venir. Alors Agathe Legrand est allée demander aux Grenoblois les raisons de leur désamour.
Je sais pas, je m'attends pas à ce que ça change grand-chose dans le pays.
Le sentiment d'avoir toujours été un peu non pris en considération ou que les politiciens soient décorrélés de la réalité. Et puis, il y a l'impression que maintenant, c'est du théâtre, en fait, c'est devenu du théâtre.
C'est toujours important, notamment pour une femme, je trouve aussi, le vote. Donc, je m'y intéresse, mais je suis agacée sur plein de choses et puis on sait jamais. C'est un peu toujours pareil, c'est un peu toujours aussi les mêmes profils. Mais en tout cas, je m'y intéresse.
Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, vient d'être condamné cet après-midi pour contrefaçon de droits d'auteur dans son clip de campagne. Le polémiste d'extrême droite et son parti Reconquête devront verser 70 000 euros aux différents plaignants, dont Gaumont et EuropaCorp. Après le 14 mars, plus besoin de vous balader avec un masque sur le nez. Il ne sera plus obligatoire dans les écoles, les supermarchés ou encore les universités. Annonce faite hier par le Premier ministre Jean Castex, qui a indiqué que le masque resterait uniquement obligatoire dans les transports en commun et les hôpitaux. Hôpitaux d'ailleurs, qui seront les seuls lieux où un pass, non plus vaccinal mais sanitaire, sera exigé pour les patients et visiteurs, bien sûr, hors urgence.
Et ces allègements ont été rendus possibles grâce à l'amélioration des conditions sanitaires en France.
Le virus circule moins, le nombre de nouveaux cas positifs par jour a baissé de 30% la semaine dernière et le nombre d'hospitalisations de 25%.
Du coup, les pharmacies ne sont plus prises d'assaut comme c'était le cas en janvier. Un répit qui fait du bien aux pharmaciens, Gwendoline Langlois.
Eh bien, c'est en tout cas le ressenti de Bérangère, une pharmacienne grenobloise de 28 ans. Après 2 ans de pandémie, elle profite un tout petit peu de la descente des cas pour souffler un bon coup en attendant la prochaine vague.
Début janvier, on devait faire entre 70-80 tests par jour. Et ensuite, au niveau des vaccinations, on devait être une vingtaine par jour aussi. Et là, on n'ouvre plus que deux flacons par semaine. Et on n'arrive pas toujours à trouver assez de candidats pour les finir. Donc je vous dirais que là, on n'est même pas à 3-4 vaccinations par jour. Là, on voit vraiment une grande différence au niveau des chiffres.
Est-ce que là, en ce moment, c'est avec la descente des cas, la décrue des cas, c'est la fin du Covid?
Alors je ne sais pas si c'est la fin du Covid, mais en tout cas, c'est la fin de cette vague. Mais effectivement, on a eu énormément du coup, de collègues qui étaient en arrêt maladie à cause du Covid. Il n'y a pas une semaine où on était en équipe complète. Mais là, ça va mieux, effectivement. On a moins de boulot, puis les gens sont moins désagréables aussi.
Mais même si le nombre de cas continue à décroître, le virus a laissé des traces qui ne disparaîtront pas de sitôt dans la pharmacie.
Je pense que notre métier a beaucoup changé, quand même, durant toute cette crise. Je pense que nous, ça va tendre vraiment vers une évolution du métier de pharmacien, où on va faire plus de tests, plus de dépistages, de choses comme ça au futur. Après, c'est vrai que ça serait dommage de ne plus faire de médicaments. Je pense que ça va être un nouveau monde pour la pharmacie.
Un nouveau monde qui va demander une réorganisation en profondeur du fonctionnement de la pharmacie. Bérangère n'a pas le temps d'achever son propos, qu'elle doit déjà repartir, aider sa collègue en charge des tests. Donc la fin du Covid, c'est pas pour tout de suite.
Alors bonjour madame, du coup vous venez pour un test ?
Dans les rues de Grenoble, impossible de les rater, les fameux vélos jaunes, anciens métro-vélo, aujourd'hui M-Vélo+, disponibles à la location dans différents points de la ville. Voilà 2 ans que leur mise en service et entretien est assurée par la société Cycléo. Et depuis, services et conditions de travail n'ont cessé de se dégrader d'après une enquête Mediapart publiée il y a 2 semaines. Un constat que confirme cet employé de Cycléo qui a souhaité garder l'anonymat. Ses propos ont été réenregistrés.
En septembre dernier, on s'est mis en grève, mais il y a eu des représailles. Des licenciements violents et abusifs, des pressions. On était 40 dans le service, là on n'est plus que 33. On a des gens en arrêt maladie longue durée, des gens que le travail a rendu inapte, tout le monde veut partir. Ce qui est usant, c'est qu'on se retrouve à servir de fusible face aux usagers qui sont agacés de payer pour un service qui ne marche pas. Un coup, il manque une pièce pour la réparation, un coup, c'est le modèle commandé qui n'est pas disponible. Cycléo avait remporté l'appel d'offres sur la promesse de la digitalisation, mais leur logiciel est absolument pas adapté au système de location. Et nous, on nous demande de mentir aux clients, de dire que c'est un cas particulier, qu'on va régler ça alors que c'est faux. Il y a plein de choses qui marchent pas. 9 millions d'euros d'argent public sur 4 ans pour ce service, où va cet argent? Anonymement, on a écrit à beaucoup d'élus, de députés et qu'on a eu à peine 3 réponses. L'inspection du travail a adressé un rappel à l'ordre à Cycléo, on n'y a pas eu accès et on n'a surtout pas de nouvelles. Tous les 4 ans, c'est une nouvelle société qui reprend le contrat et nous, on bouge avec les meubles. À la base, on bosse ici parce que ça nous plaît, là, on est écœurés.
Le rapport rendu par l'inspection du travail en février pointe un management dénudé de considération et évoque également la tentative de suicide d'une salariée. Il relève qu'aucune déclaration d'accident du travail ni d'enquête n'a été effectuée. Nos demandes d'interview auprès de la métropole et l'entreprise Cycléo n'ont pas abouti.
Ça y est, les Jeux paralympiques d'hiver sont officiellement lancés depuis ce midi.
Ski de boss, snow ou géant, les tricolores espèrent finir sur le podium des nations en raflant une dizaine de médailles au moins. Les 10 jours de compétition sont à suivre sur France Télévisions.
Et on vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres, Gwendoline Langlois. Microcité, ça continue sur Radio Campus, il est 16h39. Bon, on a eu un petit cafouillage. On va lancer la musique juste après, mais tout ça pour vous dire que dans un instant, on va parler du dernier rapport du GIEC, des conséquences du réchauffement climatique sur nos vies. Et avant ça, petite pause musicale.
Hey, Anna, ci becchiamo nel bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Infami tornano in fila. Ho detto alla mamma che mo vado a Milan. Te non dare opinioni se vesti fila. Giuro che sei un bambino, non sei 2000. Vorrei avessi la fame la mia per capire le cose. Divido l'acqua e mose. Vi vedo un po' mosse, situazioni e cose. Dico cosa le faccio, no, non parlo e basta. Tu non ne so, fa meglio smetti col rap. Oppure talent, giuro, fanno per te. Per fare sti band, mi divido in tre. Telefono un minuto, cazzo ho fatto fra te. Fategli zanza e poi passa la stessa e piangete. Meglio vi sedete col pallone in rete. Non rappi di nulla, zia, proprio di niente. Se chiedo in giro, non dico che sei demente. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Ci becchiamo nel bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Ho la scorta di flow, voglio frero ricco. Cazzo vuoi ma ricco, non ti becco mi impicco. Sto tipo che presse di M, non firmo TN, giuro che non pago con l'ATM. Prendo treni, sono tornata ieri. Non ho più pensieri, tu fai meglio vieni. Spazzo via i problemi, troppo me la meni. Voglio uno 6-0, you know what I'm saying. Mi ricordo quando sfottevi. Quel che facciamo saluti, non sono nata ieri. Resto solo con amici, però quelli veri. Conosci prima di parlare, niente te la credi. Oh sì, mi richiami, ti blocco. Resto fedele, sempre al cazzo di blocco. Non mi supporti, ma bendo ce l'hai testa. Te le tue amiche, non è messa la festa. Uno arrivo, due entro free. Tre bitches che slacciano jeans. Uno arrivo, due entro free. Tre bitches che slacciano jeans. Uno arrivo, due entro free. Tre bitches che slacciano jeans. Uno arrivo, due entro free. Tre bitches che slacciano jeans. Siamo nel bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel.
C'était Bando de Anna. Vous êtes bien sur Radio Campus, il est 16h42.
Le dossier de la semaine.
Vous l'avez peut-être remarqué, avec le réchauffement climatique, les hivers sont de plus en plus doux, la neige se fait de plus en plus rare, mais selon le dernier rapport du GIEC, la hausse des températures pourrait avoir des conséquences bien plus graves sur nos vies. À quoi doit-on s'attendre exactement? Y a-t-il des solutions? On en parle tout de suite avec Clémentine Proutot et son invitée. Bonjour Clémentine.
Bonjour. Effectivement, en début de semaine, le GIEC a publié la deuxième partie de son sixième rapport sur l'évolution du climat. Dans le premier chapitre, publié l'été dernier, les scientifiques se sont concentrés sur les données physiques du climat. Grâce à ces données, ils ont créé différents modèles en fonction de nos émissions de gaz à effet de serre. Le second chapitre s'attarde, lui, sur les conséquences du réchauffement climatique sur notre vie. Il ouvre aussi la question des adaptations que nous allons devoir mettre en place pour vivre et survivre avec la hausse des températures. Christophe Cassou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue et directeur de recherche au CNRS de Toulouse. Merci d'être avec nous. Avant de vous donner la parole, je vais me tourner vers Léa Bouvet. Léa, d'après le second rapport du GIEC, la situation climatique s'est aggravée et certains changements sont déjà irréversibles.
Oui, et l'impact du réchauffement climatique est plus sévère et plus globalisé que ce que l'on imaginait. Ce second volet énumère plusieurs conséquences déjà observables. Parmi elles, la réduction des ressources disponibles en eau et en nourriture, la baisse de rendement de pêche, un impact sur la santé aussi qui s'observe par une hausse de la mortalité, par l'émergence de nouvelles maladies, le développement du choléra ou encore la dégradation de la qualité de l'air. Autre répercussion du dérèglement en cours, une augmentation de 20 cm du niveau des océans depuis 1900, une conséquence irréversible, tout comme le raccourcissement des cycles de gel ou encore la disparition de la calotte polaire en Antarctique, des effets liés à la hausse des températures qui atteignent aujourd'hui 1,1 degré. Donc l'objectif fixé par les accords de Paris de contenir cette hausse à 1,5 degré va donc être difficile, voire impossible à tenir. plus de 3 milliards de personnes sont dans des situations de grande vulnérabilité face au dérèglement climatique. Ce rapport est un terrible avertissement sur les conséquences de l'inaction, affirme le président du GIEC. Au rythme de développement actuel, le réchauffement pourrait atteindre 2,7 degrés à la fin du siècle.
Christophe Cassou, est-ce que c'est un constat d'échec ce rapport ?
C'est pas un constat d'échec, c'est un énième signal d'alarme, d'alerte, on va dire, qui montre que, bon, en fait, le constat scientifique est sans équivoque. Hein, le changement climatique aujourd'hui, c'est une menace pour le bien-être humain et pour la santé planétaire. Donc, ce rapport du GIEC est comme un dernier avertissement, on va dire, parce que tout retard supplémentaire, hein, qui est vis-à-vis d'une action qui soit concrète et qui soit mondiale, pour retard supplémentaire, va nous faire manquer en fait cette brève fenêtre d'opportunité, hein, pour assurer un avenir viable, cette brève fenêtre d'opportunité qui se referme très rapidement.
Justement.
Mais ce rapport montre aussi quand même des solutions, que les solutions existent et ces solutions sont évaluées dans ce deuxième volet du rapport du GIEC.
Justement, vous parlez de fenêtre. Donc la température du globe, là, elle a déjà augmenté de 1,1 degré. On s'attend potentiellement à atteindre les 2,7 degrés. Mais est-ce qu'ils font vraiment la différence, ces quelques centièmes de degrés ils vont faire la différence sur nos modes de vie ?
Oui, parce que en fait, ces rapports montrent que chaque fraction de degré compte. On n'a pas l'impression que 1 ou 2 degrés font une grande différence en termes de température, mais en termes d'impact, de vulnérabilité ou d'exposition des populations, chaque fraction de degré augmente les risques qui sont associés à ces trois facteurs. Alors, si on prend un exemple plus précis sur la France, si on prend par exemple la canicule de juin 2019, qui a vu le record de température maximale battu dans le Languedoc-Roussillon avec 46 degrés. Cette canicule ou cet extrême chaud, on va dire, aujourd'hui, a une probabilité ou un risque d'occurrence de 1 sur 50, avec un réchauffement global de la planète de 1,1 degré, comme vous l'avez énoncé au départ. À 1,5 degré, donc c'est-à-dire 0,4 degré par rapport à aujourd'hui, cette probabilité passe à 1 sur 10, donc de 1,50 à 1 sur 10. Et à 2 degrés, elle passe à 1 sur 4. Ce qui ouvre aussi vers des étés beaucoup plus chauds et vers des seuils de température proches de 50 degrés en France. Donc on voit bien qu'on est passé de 1 sur 50 à aujourd'hui à peu près 1 degré à 1 sur 4 à 2 degrés. Et donc chaque petit incrément de température a un impact très important sur ce qu'on appelle les événements extrêmes, donc les canicules et les pluies diluviennes, parce que l'intensité et la fréquence de ces événements extrêmes sont proportionnelles à la température globale.
Et justement, vous parliez de l'été 2003, juste pour rappeler que 19 000 personnes étaient justement décédées à cause de la chaleur de la canicule de 2003. Donc là, on a parlé plutôt du réchauffement des conséquences on parle de la hausse des températures et de la canicule, mais il y a aussi la problématique de la fonte des glaces. On a rencontré Philippe Schoneich, qui est professeur à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine à Grenoble, et il nous a expliqué les conséquences qu'auraient 2 degrés de plus sur nos montagnes.
Que ce soit la ligne d'équilibre des glaciers, que ce soit la limite du permafrost, que ce soit la limite des forêts, toutes ces limites climatiques vont remonter d'une valeur proportionnelle au réchauffement climatique. Et 300, 400 mètres, c'est énorme, hein. Ce que le réchauffement climatique va influencer, c'est aussi la forme des précipitations. C'est-à-dire qu'il y aura moins de précipitations sous forme de neige et plus sous forme de pluie. Donc ça veut dire un hiver plus court, un enneigement au sol plus court. C'est-à-dire aussi plus d'alternance de pluie et de neige pendant l'hiver.
Christophe Cassou, cette fonte des neiges, l'augmentation des précipitations, elles vont avoir quoi comme conséquence sur nos modes de vie ?
Alors en fait, l'augmentation des précipitations est associée à un changement qui est plus vaste, un changement qu'on a sur le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau qui comprend l'évaporation également et qui comprend les précipitations et le ruissellement sur les sols. Donc nos études, nos évaluations montrent bien qu'on a ce qu'on appelle une accentuation, une intensification du cycle de l'eau avec des événements précipitants, donc des pluies diluviennes qui sont plus fortes et des épisodes de sécheresse qui sont plus marqués. On a également des saisons qui sont plus marquées, avec des hivers qui sont plus humides et plus pluvieux, et des étés qui sont plus secs. Dans des zones de montagne, donc tout ça se traduit par des changements dans les débits de rivières en particulier, dans la mesure où la fonte de la neige est beaucoup plus précoce, le stock de neige est beaucoup plus faible, et donc les niveaux d'étiage, c'est-à-dire les niveaux des plus bas des rivières, sont atteints beaucoup plus tôt dans la saison estivale, ce qui va provoquer ensuite des tensions sur les ressources en eau, en particulier en été, ressources en eau pour l'agriculture, mais aussi pour l'énergie, énergie hydroélectrique, énergie aussi liée de manière indirecte aux centrales nucléaires, dans la mesure où il faut refroidir les réacteurs par l'eau des rivières. Donc voilà, on a toutes ces conséquences en cascade qui augmentent notre vulnérabilité et les risques donc associés à ces petits incréments de température qui ont des conséquences très importantes.
Donc le second rapport du GIEC, il s'attarde aussi sur les adaptations que l'on va devoir mettre en place. Est-ce que vous pourriez nous dire quel type d'adaptation on va devoir mettre en France ou dans notre région pour survivre à cette hausse des températures ?
Alors, l'adaptation est inéluctable dans la mesure où il y a une partie du réchauffement climatique qui est future, qui est actée. Vous parliez précédemment du seuil de 1,5 degré hein, qui est inscrit dans l'accord de Paris. Ce seuil de 1,5 degré, il sera franchi dans les années 2030. C'est un seuil qui est inéluctable dans la mesure où, pour limiter le réchauffement climatique, il faut arrêter d'accumuler du CO2 dans l'atmosphère. Et nos sociétés humaines ont une certaine inertie, les infrastructures humaines ont de l'inertie, on ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain à émettre des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est parce qu'on ne peut pas s'arrêter rapidement que cette trajectoire vers le 1,5 degré est inéluctable. Donc 1,5 degré, ça, comme je vous l'explique précédemment, c'est plus d'extrême, donc il y a plus de tension sur les ressources en eau, donc il va falloir s'adapter. Et l'adaptation, en fait, dépend des spécificités régionales. Alors, il peut y avoir une adaptation qu'on appelle incrémentale, c'est-à-dire qu'à chaque coup climatique, on essaye de parer de manière préventive au coup suivant qui serait du même ordre de grandeur. Et puis, il y a l'adaptation ce qu'on appelle transformationnelle, qui permet donc de s'engager vers des modes de vie ou des relations aux ressources qui vont être différents et qui vont nous permettre d'être résilients face à des coûts climatiques qui vont se multiplier.
Vous parliez des gaz à effet de serre, et c'est vraiment la priorité, ça, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre ?
Alors, c'est même pas une priorité, c'est une nécessité. On ne négocie pas avec les lois de la physique. Et les lois de la physique nous montrent que c'est l'augmentation, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui conduit au réchauffement climatique. On a montré dans notre rapport que l'intégralité du réchauffement climatique hein, sur la dernière décennie, donc la décennie 2010-2019 hein, qu'on a évaluée, l'intégralité du réchauffement est liée aux activités humaines, est liée à l'augmentation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui provient de la combustion des énergies fossiles, hein, pétrole, gaz et charbon, et de la déforestation. Donc, on est obligé de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On parle souvent de neutralité carbone. De neutralité carbone, on la présente souvent comme un objectif qui est politique. En fait, la neutralité carbone, c'est une contrainte géophysique non négociable. Si on veut limiter le réchauffement climatique, il faut arriver à zéro molécule supplémentaire dans l'atmosphère à partir d'une date donnée. Et à 2050, en l'occurrence, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.
Mais donc, ça veut dire qu'on va devoir se déplacer de manière différente, qu'on va devoir se chauffer de manière différente. Est-ce que ça ne va pas être difficile, tout ça, à mettre en œuvre ?
Alors, évidemment, il y a une grande difficulté à mettre en œuvre cette transformation. Mais on montre que plus on commence tôt, moins cette difficulté sera grande et pourra être surmontée. Et moins le coût lié au changement climatique sera élevé. Parce que lutter contre le changement climatique a évidemment un coût, mais ce coût sera beaucoup plus grand s'il en attend encore davantage. Donc, il faut absolument réduire nos émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible et donc repenser en fait nos modes de vie de manière systémique. C'est-à-dire qu'il faut éviter de raisonner en silo, c'est-à-dire en secteur très cloisonné, mais de repenser dans son intégralité nos modes de vie. Quand on parle par exemple de transport, quand on parle de transport et de mobilité, il faut repenser à l'urbanisation, il faut repenser aux imaginaires aussi, peut-être de vacances ou de loisirs que l'on a. Il faut repenser à l'ensemble de nos activités qui émettent des émissions de gaz à effet de serre de manière transverse.
Hier, Agathe Legrand a rencontré plusieurs habitants d'Échirolle qui étaient assez défaitistes. C'était le cas de Florent, on l'écoute.
On se voile la face littéralement. Limite, c'est inutile de militer. Le militantisme, c'est bien, mais il faut se rendre compte qu'on en arrive à un stade où ça devient inutile.
Donc c'est ma dernière question, Christophe Cassou. Est-ce que c'est pas déjà un peu foutu, comme le dit Florent ?
Non, c'est pas foutu. La fenêtre se referme. Mais ce n'est vraiment pas foutu. On a montré vraiment dans ce rapport que nous sommes les seuls maîtres de notre futur climatique. Hein. Les actions d'aujourd'hui conditionnent les climats de demain. Et les décisions d'aujourd'hui conditionnent les climats de demain. Si l'on suit nos promesses, les promesses des États, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on arrive à limiter le réchauffement. On arriverait à limiter le réchauffement autour de 2,5 degrés. Il faut faire un effort supplémentaire. Mais ce qui est très important et ce qui est une bonne nouvelle, c'est que si vous m'aviez interviewé en 2010, j'aurais parlé de climat, de réchauffement climatique de l'ordre de 6-7 degrés à la fin du siècle. Aujourd'hui, on est plutôt sur 3 degrés à la fin du siècle, hein, ce qui est déjà considérable, parce que je vous ai dit que chaque fraction de degrés compte. Mais on a quand même décroché de ces courbes d'émissions de CO2 exponentielles que l'on imaginait au début des années 2010. Donc, les politiques climatiques sont là, elles sont insuffisantes. Donc, il faut davantage de pression. Le militantisme est important dans ce cadre-là. Pour essayer donc de limiter le plus possible les émissions.
Merci beaucoup Christophe Cassou, je suis obligée de vous couper. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes climatologue Merci. Et directeur de recherche au CNRS de Toulouse.
Merci à tous les deux. L'émission Microcité continue, il est 16h57.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Les symptômes du Covid sont nombreux et s'ils durent plus d'un mois, on parle de Covid long. Maux de tête, grande fatigue ou troubles respiratoires, il faut alors plusieurs mois de suivi médical. À Grenoble, Agathe Legrand a rencontré des patients traités dans un centre de kinésithérapie respiratoire.
Je m'appelle David Souquet, je suis professeur et entrepreneur et j'ai un problème de Covid long.
Et quand est-ce que vous avez eu le Covid ?
Les premiers symptômes étaient le 21 ou 22 décembre. Et puis ensuite, j'avais plus de symptômes, j'étais guéri, entre guillemets. Du coup, je suis retourné travailler. Et au bout de 3 jours, je pouvais plus respirer, j'avais des points au niveau des poumons parce que j'étais en train de faire une embolie pulmonaire. Depuis, je galère parce que quand j'arrive au travail, je monte les escaliers, je suis obligé de faire une pause. C'est bête, hein, c'est des gestes quotidiens qui fatiguent énormément.
Un peu ces exercices ventilatoires.
Ça fait 2 mois et demi que vous avez eu le Covid. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ?
Je suis ici à faire de la rééducation respiratoire. Tout simplement, je réapprends à respirer. Par exemple, on me fait asseoir, lever, un peu comme des squats, mais sur une chaise.
On commence simplement par... Je me lève, j'ouvre les bras, j'inspire. Et je souffle, j'expire. Donc là, on synchronise.
Et moi, quand on m'a fait faire ça au début, je me suis dit que c'était un exercice pour les petits vieux, quoi. Et en réalité, en fait, j'y arrive pas.
L'expiration, elle est passive, là. C'est juste je relâche.
Donc c'est ce sentiment d'être vraiment diminué physiquement et un peu mentalement qui épuise sur le long terme. Mais je pense que c'est important de se faire accompagner comme je fais là. Et puis ça donne confiance un peu parce qu'on se dit que si ça commence à aller mieux, bah c'est qu'il y a une fin, quoi. C'est que ça sera pas pour la vie. Mais par contre, c'est très long.
La rééducation peut durer plusieurs mois. Dans ce même cabinet à Grenoble, j'ai rencontré Christine Calatayud à la fin de sa séance. Elle a passé 50 jours à l'hôpital en septembre et depuis 6 mois, elle vient ici 2 à 3 fois par semaine.
J'ai commencé la kiné respiratoire le 23 décembre ici. C'est vraiment un endroit spécialisé. Maintenant, on travaille sur des exercices un peu plus pointus de respiration et on se rend compte que ce n'est pas récupéré complètement. Et là, je viens juste de commencer à remarcher avec du dénivelé, à 250 mètres de dénivelé, il y a 2 jours. Voilà, donc c'est un long cheminement. Et ce qui est difficile psychologiquement, c'est de se dire que bon, j'ai plein de gens qui ont eu le Covid autour de moi et qui n'ont pas eu des formes graves comme moi j'ai eu. Et c'est inexpliqué, on ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas d'antécédent particulier, en fait. Et on n'oublie pas, c'est sûr. Ça fait partie de mon histoire. C'est pas simple à gérer, quand même.
Et on estime que le nombre de patients qui développent un Covid long est de 10%.
Microcité, en direct jusqu'à 17h.
Et tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Gwendoline Langlois.
L'armée russe a pris le contrôle de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Les militaires ont commencé leur assaut dans la nuit, déclenché un feu, éteint depuis. Tout risque nucléaire serait maintenant écarté selon les responsables militaires locaux. Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Dans une lettre publiée ce matin dans la presse régionale, le désormais candidat a défendu son bilan et présenté une ébauche de programme. Bientôt, plus de masques en intérieur, sauf dans les transports en commun et les hôpitaux. Plus de passe vaccinale non plus à partir du 14 mars, il faudra seulement un test négatif ou un schéma vaccinal complet pour se rendre à l'hôpital, hors service des urgences.
C'est déjà la fin de cette dernière émission de Microcité. On est très heureuse d'avoir partagé cette expérience avec vous. On tient à remercier notre professeur de radio auquel on pense bien fort. Merci à l'ensemble des intervenants. Merci à toute la technique de Microcité, Louis, Sarah, Mathieu. Et merci à vous les auditeurs. Bonne relève à la future équipe de Microcité. Bon week-end et portez-vous bien. Salut.